Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, une joute sur les résultats électoraux de lundi soir. On peut se dire tout ça pour ça après une campagne de 36 jours qui aura coûté 600 millions de dollars, un peu plus, pour un retour à un parlement quasiment similaire au parlement de 2019. Pour discuter de ce sujet, je reçois quatre invités aujourd'hui. Brian Breguet du site Too Close to Goal. Bonjour Brian.
Bonjour.
Olivier Jacques, politologue, professeur adjoint à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Olivier.
Bonjour.
André Lamoureux, politologue, analyste politique dans différents médias. Bonjour André.
Bonjour.
Et Guillaume Rousseau, professeur en droit à l'Université de Sherbrooke et aussi analyste politique dans différents médias. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donc, première réaction qu'on pourrait se donner, j'aimerais un peu entendre votre opinion sur ça. C'est un peu tout ça, pour ce cycle électoral. Est-ce qu'on a été face à un remaniement le plus cher de l'histoire du Canada ou est-ce que cette élection aura des conséquences un peu plus dures, un peu plus sévères que les résultats le laissent à penser? André, si vous voulez commencer.
Ben oui, certainement. C'est 612 millions pour un député.
612 millions pour un député, oui, un transfert d'un député du Parti libéral.
Oui, c'est comme si une équipe de hockey de la Ligue nationale donnait toute sa masse salariale pour un seul joueur. C'est l'équivalent. Il faut faire une espèce de comparaison. Alors, donc, c'est énorme. C'est un gaspillage de fonds publics. Puis en plus, on ne compte pas là-dedans tous les frais, les coûts, les frais engagés par les partis politiques eux-mêmes pour chacune des campagnes, les frais locaux, les frais locaux, les frais à l'échelle fédérale. C'est énorme.
Brian, si on a pu voir au Québec que cette campagne a plutôt donné lieu à un statu quo avec potentiellement en fait simplement un transfert de députés avec deux nouveaux députés blocs, au Canada anglais, il y a potentiellement des conséquences un peu plus importantes, surtout pour les chances futures du Parti conservateur dans les régions de Toronto.
Oui, c'est ça. Je dirais il y a eu trois gros changements dans le Canada anglais, l'absence de changement. On a vu l'absence de gains des conservateurs malgré des gains dans le vote populaire en Ontario. Donc, ça montre vraiment que la région de Toronto va être difficile pour ce parti. Mais sinon, on a quand même vu deux autres changements assez significatifs. Le premier, c'est les gains des conservateurs dans les maritimes, incluant un siège à Terre-Neuve. C'est quand même assez énorme pour ce parti. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. La très mauvaise nouvelle de la soirée, c'est ce qui est arrivé dans la région de Vancouver avec ce qui semble être une chute assez dramatique dans le vote des électeurs d'origine chinoise.
Olivier, au niveau de la légitimité des résultats, qu'est-ce que vous en pensez? On voit, par exemple, une augmentation comparée à la dernière élection de l'abstention et une diminution du corps électoral qui allait voter. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Trudeau devra en tirer des conséquences?
Oui, je voulais tout d'abord, par contre, répondre à la première question que vous avez posée. Moi, je suis pas tout à fait d'accord que c'était une élection inutile. Le résultat n'a pas changé, mais ça demeure que de 2019 à 2021, le gouvernement Trudeau a proposé des choses assez différentes et des choses pour lesquelles il n'a pas été élu. Il propose un changement de paradigme de politique fiscale. Déficit à profusion, des dépenses publiques importantes, propose beaucoup de nouveaux investissements, a aussi augmenté la taxe carbone à 170 $, propose une réforme de la sécurité du revenu, propose un système national de garderie. L'élection n'a pas été cadrée de cette manière-là, mais on pouvait y voir une forme de référendum sur les deux budgets qui sont ma foi, assez révolutionnaire que le Parti libéral a proposé en 2019 et en 2021. Effectivement, le gouvernement aurait pu continuer parce qu'il se faisait appuyer, mais quand même, il y a eu des politiques publiques qui ont été proposées dans les deux dernières années qui sont assez différentes de ce qu'on avait déjà vu auparavant.
Est-ce que par une telle réussite, donc le fait de s'être maintenu au pouvoir, il aura donc plus de légitimité, par exemple, pour aller chercher l'appui du NPD pour des politiques dépensières?
Ben, à mon avis, c'est ce qui va se produire dans la prochaine législature. Le NPD et les libéraux se rejoignent sur certains points et je pense qu'il y a beaucoup de légitimité effectivement pour continuer vers des politiques environnementales un peu plus ambitieuses ainsi que de créer un programme national de garderie. Ensuite, pour revenir à l'abstention, effectivement, je pense que c'est un problème, mais c'est quelque chose qu'on voit un peu partout Et on sait que l'abstention est fortement créée par lorsque des élections fréquentes, et c'est ce qu'on voit cette fois-ci, là, on avait une élection fréquente et en plus les enjeux pour les gens n'étaient pas particulièrement clairs, c'était l'été, donc je pense qu'on peut comprendre pourquoi il y a de l'abstention, mais ça demeure un problème là, pour la démocratie canadienne en général.
Guillaume, l'autre problème pour la démocratie canadienne, on va se le dire, c'est un peu le système de vote en place avec ce premier arrivé, premier servi au niveau du vote par circonscription. Est-ce que le fait que la diminution du vote libéral qui est continu, il gagne des minorités, mais ils continuent à voir leur potentiel de vote réduit face au Parti conservateur, c'est un problème pour les élections à venir?
Ouais, ben c'est sûr que c'est pas l'idéal. Puis si je réponds aussi en même temps à l'autre question de l'utilité ou pas de cette élection, je dirais que l'effet concret de cette élection-là, c'est que les partis d'opposition ne vont pas faire tomber le gouvernement Trudeau dans les prochains mois. Alors que s'il n'y avait pas eu d'élection cet automne, ben forcément, après 2 ans de gouvernement minoritaire, à un moment donné, à chaque budget, les oppositions auraient pu chercher le bon prétexte, le bon sondage, dans le cas des conservateurs, pour faire tomber les libéraux. Là, clairement, avec une élection qui vient d'avoir lieu, avec une absence d'appétit des électeurs là, pour une élection à court terme, ben là, je pense que le gouvernement Trudeau a gagné du temps. Donc, je pense que pour un an et demi, voire 2 ans, voire plus, vraiment, il y a très peu de chances de perdre un vote de confiance en Chambre. Donc, ça, c'est l'effet principal, à mon avis, au niveau institutionnel. Maintenant, si on regarde au niveau légitimité, ben là, ce qu'il faut remarquer, et je pense de mémoire de mon vivant, c'est sans précédent là, qu'un gouvernement remporte 2 élections de suite. En ayant moins de votes que les conservateurs, donc en ayant moins de votes que l'opposition officielle. Quand ça arrive une fois, bon, c'est un accident, le mode de scrutin le permet, bon, c'est...
Mais là, quand ça arrive deux fois...
La légitimité. Mais là, la deuxième fois, c'est majeur, et là, ça pose la question de la réforme du mode de scrutin. On sait que les libéraux iront pas là parce qu'ils avaient promis d'y aller lorsqu'ils étaient majoritaires, et ils n'y sont pas allés. Là, ils proposent un vote préférentiel, ce qui est pas évident nécessairement que que les partis d'opposition pourraient se rallier à ça. Puis tout ce qui est réforme du mode de scrutin, donnant plus de sièges à des petits partis dans un contexte de montée du Parti populaire, c'est pas évident.
Au niveau de cette facilité pour les libéraux d'aller chercher des sièges avec moins de votes, Brian, j'avais pu lire dans votre blog et sur vos interventions sur Twitter dans les derniers jours, par exemple, qu'on voit une machine libérale qui a été extrêmement efficace. Vous parlez de Toronto et de la diminution du vote chinois pour les conservateurs. Le fait que cette machine libérale ait pu aller récupérer ce vote alors qu'on ne s'y attendait pas.
Ouais, non, exactement. Et on a vu, par exemple, sur Twitter, Gerald Butt, qui était l'ancien conseiller de Justin Trudeau, qui
se gargarisait un peu de ça.
Oui, c'est ça qui fait l'argument qu'en fait on devrait pas se soucier de ce chiffre, que c'est simplement un résultat que d'optimisation et que les libéraux en fait n'essaient pas de gagner le vote populaire un peu. C'est un peu l'argument qu'on voit aux États-Unis où quand Donald Trump avait perdu le vote populaire, l'argument des républicains, oui, c'est parce qu'on essaie même pas d'avoir des votes en Californie parce que ça nous est inutile. Donc il y a du vrai là-dessus, mais dans un contexte politique, le vote populaire crée quand même une légitimité. C'est quand même un peu problématique. Je crois que c'est Andrew Cohen ou David Moskop qui ce matin qui dit. Le problème vraiment, c'est qu'on a un système avec 5 ou 6 partis à l'heure actuelle depuis des années maintenant, et on utilise un mode de scrutin qui est vraiment fait pour 2 partis. Donc c'est le cas au fédéral, c'est le cas au Québec, c'est le cas de la plupart des provinces. C'est assez incroyable que l'on n'ait pas encore vu de réforme du mode de scrutin à l'échelle canadienne.
André, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça?
Oui, moi, sur la question de la légitimité, moi, je trouve qu'il y a un gros problème parce que c'est historique là, qu'un gouvernement soit formé encore avec 32% des voix. Là, parlons de légitimité un petit peu. Là. Je veux dire, les conservateurs ont eu 33, le Bloc a eu l'équivalent de 7-8%. Puis ensuite, si vous ajoutez le Parti populaire de Maxime Bernier 5%. Et les autres, là, vous avez une plus grande légitimité. Là. Alors, la seule façon de survivre pour Justin Trudeau, là, ça va être s'appuyer sur le NPD. Mais Justin Trudeau, il l'a caché tout le long. Moi, je l'ai exprimé au début de la campagne, là, publiquement dans les médias. Là. Il n'y avait qu'une seule raison, c'est d'avoir les 2 mains sur le volant puis que personne d'autre ne touche au volant. Alors, quand on parle de légitimité, là, c'est ça qu'il voulait. Mais malgré tout, par la bande, avec son gouvernement minoritaire, il va pouvoir le faire avec les bons offices du NPD qui ont toujours été, comme parti de gauche, c'est assez surprenant, là, mais toujours été la conscience sociale des libéraux. Alors, donc, et là, le problème, c'est que je pense que Guillaume avait raison là-dessus, c'est que là, les partis de l'opposition n'oseront pas
aller en élection.
Essayer de défaire le gouvernement, peut-être éventuellement Bloc, mais j'en doute. Mais les conservateurs ne sont pas placés pour se lancer dans une nouvelle élection avec Erin O'Toole, ça ne fonctionne pas. L'NPD encore moins. C'est une défaite historique du NPD, ce vote-là. Au Québec, c'est une catastrophe. Ça fait 60 ans que c'est une catastrophe pour le NPD, sauf pour 2011. Là, le NPD revient à la période pré-Layton, là, avec un siège.
C'était assez drôle ce matin de voir Jean-François Lisée, par exemple, dans Le Devoir, parler que la seule manière peut-être pour le NPD de continuer à exister et pour les libéraux de s'assurer des majorités, ça serait de fusionner, de faire une partie de libéral-démocrate afin que dans les prochaines élections, éviter que ce potentiel conservateur au niveau du vote populaire...
Mais dans les faits, ça a toujours été ça. Rappelez-vous, là, avec Paul Martin, là, même le discours du trône, le NPD, le gouvernement était minoritaire, le NPD avait demandé d'ajouter des intentions pour le logement social, l'environnement. Alors, ils avaient accepté la demande de Layton, puis finalement, ça avait passé. Ça a été constamment comme ça.
Brian, revenons un peu sur le PPC. On a pu en parler rapidement au début de l'émission. On a vu qu'ils ont claironné à 5%. Certaines firmes de sondage avaient même dit qu'ils pourraient faire 10 à 12. Est-ce qu'en fait, finalement, l'effet PPC, ça a été un pétard mouillé, ou est-ce qu'on se retrouve potentiellement avec un potentiel de progression qui va rester?
Non, j'utiliserai pas le terme pétard mouillé parce que récolter 5% des votes à l'échelle canadienne, c'est quand même assez impressionnant. Demander aux Verts si avoir 5%, c'est facile à avoir.
Surtout, c'est vrai que la diminution du vote vert quasiment disparue.
Oui, non, c'est ça, exactement. Donc, bon, ils n'ont pas gagné de siège, ils ne sont même pas passés proches. J'étais un peu surpris. On s'attendait à avoir au moins un ou deux candidats dans l'Ouest ou dans le Sud-Ouest de l'Ontario qui peut-être seraient passés proches. Je pense que le problème plutôt pour le PPC, c'est que les conditions étaient idéales lors de cette élection avec le vaccin et tous ces confinements, ces règles sanitaires. Faudra voir s'ils arrivent à survivre un milieu ou des conditions où ils n'ont pas une foule d'électeurs qui sont vraiment très fâchés contre le gouvernement. Je serais pas surpris s'ils baissent un petit peu. Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'ils tomberont à zéro, j'en doute. Mais ça semble être à l'heure actuelle un plafond.
Une sorte de plafond. Olivier, à propos du Parti vert, qu'est-ce que vous pensez qui va devenir du parti? Est-ce qu'on est proche d'un parti qui va demander l'aide médicale à mourir, ou est-ce qu'un départ d'un ami Paul pourrait sauver son importance?
Faut quand même se rappeler, quand un ami Paul est arrivé au pouvoir du Parti vert, on se disait, mon Dieu, est-ce qu'ils vont chauffer le NPD et peut-être même les remplacer comme alternative de gauche. En plus, dans plusieurs pays européens, c'est ce qu'on observe, là, il y a une montée des Verts au détriment des sociaux-démocrates. Bon, en Allemagne, il y a eu une remontée des sociaux-démocrates, mais quand même, je pense qu'on a une tendance relativement lourde dans les pays européens des électeurs sociaux-démocrates vers les Verts. Donc, je pense pas que c'est terminé. Je pense que vraiment, le leadership d'Anna Meeple a été difficile du début à la fin. Il y a peut-être un potentiel d'amélioration, mais ça demeure que dans un système majoritaire, là, un petit parti comme ça va toujours avoir de la difficulté. C'est la même chose pour le Parti populaire. Cela dit, là, je répéterai une chose, par contre, notre système, oui, nous protège contre ces petits partis extrêmes comme le Parti populaire, ne nous protège pas contre un populiste qui gagnerait la course à la chefferie d'un des deux partis principaux. Pensons à Donald Trump aux États-Unis, mais aussi à Maxime Bernier, qui a quand même fini premier dans le vote populaire de la course à la chefferie des conservateurs. Donc, c'est le système, le problème de notre système, c'est qu'on peut avoir un populiste d'extrême droite qui gagne la chefferie des conservateurs, et là, on serait pas avancé, là.
Venons-en maintenant, donc, ça fait aller au Parti conservateur. Oui,
André Lamoureux.
Oui.
Oui, Maxime Bernier n'a pas gagné la course à la chefferie, là. Chez les conservateurs, il s'est fait battre là, à l'époque.
Il s'est fait battre, mais
il a pas gagné, mais il a fini premier dans le vote populaire. Donc, on était quand même pas si loin que ça. Là.
Non, il a
terminé deuxième dans le vote populaire de peu, mais il avait perdu le vote populaire.
Il l'a perdu. Puis ce qui l'a tué, c'est précisément La question de la gestion de l'offre. Les gens de la Beauce l'avaient refusé. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui avaient pris leur carte de membre du Parti conservateur précisément pour battre Maxime Bernier. Et Maxime Bernier a été battu en 2019. Il est encore battu dans sa propre circonscription. Alors donc, sa stratégie de la tyrannie médicale qu'il a lancée au mois de mois d'août et se joindre à tous les anti-vax, anti-max et masques et anti-vaccination, ça n'a pas rapporté.
Pour le parti.
Puis j'ajouterais ceci, les petits pierres, tiers partis, c'est vraiment effectivement très important. En 66, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, avait obtenu 5,7% des voix et avait fait perdre une vingtaine de sièges aux libéraux. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'Union nationale avait gagné l'élection. Mais cette fois-ci, j'ai bien aimé l'analyse de Frédéric Boily, là, qui est sortie aujourd'hui dans les journaux, à l'effet qu'il semble que l'effet PPC n'a pas été si important qu'on laisse compter.
Oui, on a pu voir, par exemple, dans certaines circonscriptions, surtout en Ontario, où si on additionnait le vote PPC et le vote conservateur, le PCC n'aurait quand même pas gagné la circonscription.
Oui, effectivement.
Donc, ça n'a pas été aussi important. Mais revenons sur le Parti conservateur. Est-ce qu'il y a une erreur dans le recentrage? Est-ce que l'électorat conservateur est vraiment, réellement devenu conservateur et que le mirage de progressiste conservateur qui reste quand même encore un peu au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, on l'a vu avec les réussites, ne s'applique pas au reste du pays et peut mettre en danger un potentiel électoral si le parti continue à se recentrer, si Erin O'Toole reste le chef même. Guillaume, si vous voulez commencer.
Ouais, ben je pense que c'est pas nécessairement évident là, de dire que le recentrage timide amorcé par Erin O'Toole a nécessairement nuit au parti, parce que en fait les conservateurs tout le début de la campagne ça allait très bien, les courbes se sont croisées, ils ont pris une certaine avance et s'ils avaient continué sur ce momentum ils auraient pu gagner, et ça a été bloqué par une campagne très négative de diabolisation des conservateurs menée par M. Trudeau là assez efficacement là. Faut le reconnaître. Donc dès que vous avez un candidat un peu ambigu ou carrément anti-choix, anti-avortement, ben à ce moment-là, tout de suite, ça devient un enjeu, et on a vu que ça demeure une faiblesse pour le Parti conservateur que d'avoir cette aile droite-là. En tout cas, rapidement, M. Trudeau s'est attaqué à ça. Donc, c'est pas évident de dire que si le Parti conservateur ne fait pas son recentrage, forcément, ça va aller mieux. C'est vraiment pas évident. Si on regarde les exemples étrangers, quand même, le Parti conservateur britannique est revenu au pouvoir après les années Blair, et ça a été long, par un recentrage sous leadership de Cameron. Et bon, après ça, ils sont restés au pouvoir grâce à Johnson par un virage populiste et non pas à droite, puis même une espèce de populiste avec en même temps un recentrage sur certaines
populiste
questions.
Populiste de gauche, où ils ont réussi à prendre de l'électorat ouvrier. Ouais.
Exactement, donc c'est pas évident là, qu'un parti de droite peut avoir tant que ça des succès s'il fait pas soit un recentrage ou soit un virage populiste, mais pas nécessairement populiste de droite. Hein. Je pense, par exemple, à quand Erin O'Toole est sortie pour protéger les travailleurs, les retraités, les travailleurs à la retraite qui, parfois, lors d'une faillite d'une compagnie, vont passer les derniers, vont voir leur pension de retraite coupée. Et M. O'Toole va présenter ça comme une façon de protéger les travailleurs, les retraités contre les élites dirigeantes d'entreprise. Donc, il y avait un discours populiste pour une mesure qui était finalement de gauche. Hein. Alors, peut-être qu'il y a là une voix un peu à la Boris Johnson. Si on regarde les partis conservateurs en Occident qui connaissent du succès, il y a quand même Boris Johnson qui a des difficultés à très court terme, mais disons que la dernière élection était assez forte de son côté. Donc, c'est peut-être plus là qu'il y a une voix qu'un trop grand recentrage qui ferait perdre des voix aux mains du Parti populaire, ou retourner à droite qui les ferait encore, ils seraient à la merci de M. Trudeau et de la diabolisation dont ils ont fait l'objet encore pendant cette campagne.
Donc, je voudrais vous poser une question à tous. Est-ce que ça a vraiment été un échec pour le Parti conservateur, ces élections? Parce qu'il faut quand même se rappeler aussi, avant le déclenchement, on avait, Brian, vous le mentionnez souvent sur Twitter, on avait quand même un parti libéral qui était dans un territoire de super majorité. Les deux premières semaines, c'était un parti conservateur qui était donc potentiellement dans un territoire majoritaire ou à moins avec une forte pluralité. Et maintenant, on se retrouve avec un statu quo.
Je pourrais y aller, hein, si vous voulez.
Oui.
André. Oui, c'est vraiment un échec, oui, parce que disons là, que l'enjeu pour les conservateurs, la seule façon pour eux de cette fois-ci d'effectuer une percée décisive là, qui leur a leur aurait permis de prendre le gouvernement, c'était de s'emparer du Toronto, de Toronto, la région de Toronto, et de gagner un peu comme Stephen Harper faisait, là, gagner 60, 70 sièges. Ils ont été incapables. Et aussi la percée au Québec, ils ont, le Parti conservateur n'a pas réussi à vraiment percer d'une façon décisive aussi au Québec, à supplanter le bloc
Olivier.
Ouais, ben est-ce que c'est vraiment un échec? Je pense que on a sauvé les meubles quand même du côté des conservateurs. Je pense que ça aurait pu être fait. Oui, ils n'ont pas gagné l'élection, mais au début de la campagne, comme vous le mentionniez, Julien, ça allait pas très, très bien. Pour revenir au recentrage des conservateurs, je pense que c'est assez intéressant de voir que les conservateurs sont devenus un parti de travailleurs. C'est le parti des cols bleus qui habite en campagne, souvent. Et on voit que les conservateurs vont quand même faire des politiques publiques pour aider ces travailleurs-là. Ils ont proposé une bonification vraiment ambitieuse de la prestation canadienne pour les travailleurs qui sert à bonifier les revenus des travailleurs à faible revenu. Et on voit que c'est quand même un changement. Donc, je pense que ce recentrage-là suit un peu leur base. Reste que la tension, elle est extrême entre la base traditionnelle
Harper,
qui est beaucoup plus à droite, et le recentrage. Mais je pense que le recentrage est une stratégie qui est potentiellement gagnante, à mon avis, pour les conservateurs. La question, c'est est-ce que leur base traditionnelle va vouloir continuer dans cette direction-là?
Brian?
Ouais, j'ai une opinion différente ici. Je crois qu'en fait, si on prend un peu de recul, je crois que c'est un gros succès pour eux, en fait, l'autre soir. Je pense que ça montre que la stratégie a du potentiel. Effectivement, ils essaient d'émuler cette stratégie de Boris Johnson où on est un parti de droite, mais plus populaire. Et dans les faits, on parle toujours de la région de Toronto, mais selon moi, le chemin pour un gouvernement conservateur à l'avenir, il passe pas forcément par Toronto. Il passe par des gars dans les maritimes, ils passent par des gars dans le nord du Québec, ils passent par des gars dans les régions travaillistes qui votent encore NPD, mais si ce parti continue d'être de gauche urbaine, woke en bon français, je pense qu'on le voit qu'il commence à
perdre cette électorale. Par exemple.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, le nord de la Colombie-Britannique, le nord de l'Ontario, où ils ont quand même maintenant un comté Kenora depuis la dernière fois. Donc, je pense qu'il faudrait quand même pas, c'est quoi l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain, simplement parce que ça n'a pas marché cette fois-ci dans des conditions très hostiles aux conservateurs. C'est une élection anticipée, c'est une élection au milieu d'une pandémie. C'était très hostile avec les dossiers comme le vaccin et tout. Je pense qu'aussi, c'était un bon test de la base où certains dans la base ne sont pas contents ce matin ou depuis deux jours, mais ils ont quand même voté conservateur. La Saskatchewan est restée 55% conservatrice, l'Alberta est 50%. Donc, je veux dire, si ça reste autant conservateur lors de cette élection, malgré la présence, par exemple, du PPC, non, je pense qu'en fait, il faudrait qu'ils continuent sur ce cap et selon moi, ça pourrait fonctionner à peu près partout, y compris au Québec où quelqu'un ici a dit que ça n'avait pas marché cette fois sur le Québec, mais ça marchait pendant deux semaines, jusqu'au moment, ou même trois semaines. C'est jusqu'après le débat, vraiment, le bloc a augmenté. Mais encore une fois, c'est des conditions assez uniques cette année. Je pense que ce serait une réaction un peu trop réactionnaire de se dire, oh, ça n'a pas marché, il faut qu'on retourne aux années Harper. Parce que les conservateurs ne gagneront pas le pouvoir s'ils essaient d'émuler Harper. Ils doivent faire quelque chose d'autre et je crois qu'au moins ils ont essayé la bonne stratégie.
André, on a pu parler du Québec ensemble en préparant l'émission. Je voudrais vous entendre à ce sujet. Est-ce que ça, pour le bloc, par exemple, est-ce qu'on a réussi à sauver les meubles, surtout par rapport à ce que Brian vient d'avancer avec le fait qu'au début de la campagne, c'est vrai que les conservateurs talonnaient le bloc?
Oui, donc d'abord sur les conservateurs, faut pas oublier là, 2011 c'est un petit peu une exception, hein, presque une anomalie. Normalement, les conservateurs pour gagner un gouvernement majoritaire ont besoin du Québec, ont besoin d'une forte députation au Québec. C'est la recette Mulroney, c'est la recette Diefenbaker. Donc normalement, ça leur prend le Québec. Et pour avoir le Québec, on la connaît, la recette Mulroney, ça prend une promesse de modification constitutionnelle. Donc, c'est comme ça que Mulroney est allé chercher ses majorités très, très fortes au Québec dans les années 80. Et là, c'est comme si les conservateurs reviennent avec ça, mais en version homéopathique. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on va vous donner le rapport d'impôt unique géré par le Québec, les pouvoirs en immigration, mais par des ententes administratives. Donc, ce qui est clairement, sur le plan politique, moins fort symboliquement, sur le plan juridique, c'est beaucoup moins fort parce qu'un gouvernement peut changer puis on revient en arrière. Donc vraiment, les conservateurs doivent, la prochaine fois, ils ont présenté le contrat, là. Le monsieur O'Toole avait appelé ça un contrat, mais c'était la même chose qu'avait offert monsieur Scheer. Donc il n'y avait rien de nouveau à peu près en 2021 par rapport à 2019. Donc la même recette donne le même résultat. Alors là, la prochaine fois, si les conservateurs sont sérieux, ils doivent arriver avec une promesse de modification constitutionnelle pour donner plus de pouvoir au Québec. Pas nécessairement un Meach plus, ce serait irréaliste de revenir à Meach, mais il y a possibilité de faire des modifications bilatérales. Donc, avec seulement l'accord du Québec et du fédéral, il y a moyen, par cette modification constitutionnelle-là, de donner plus de pouvoir au Québec. Et jusqu'à tout récemment, il y avait un tabou constitutionnel. Hein. Personne ne voulait parler de modification constitutionnelle. Le gouvernement du Québec vient de déposer son projet de loi 96 qui propose de modifier unilatéralement la Constitution canadienne et ça a plutôt bien passé à Ottawa finalement. Donc les conservateurs doivent profiter de cette brèche-là et vraiment regarder qu'est-ce qui peut être fait par la procédure bilatérale et vraiment arriver avec une espèce de Meach moins, mais qui serait quand même substantiel. Et là, ils pourraient faire des gains aux dépens du Bloc. Mais tant qu'ils iront pas là, je vois pas pourquoi les gens soudainement se mettraient à voter conservateur plutôt que voter Bloc, considérant que le Bloc va plus loin en matière d'identité, que ce soit conditionner l'obtention de la citoyenneté canadienne au fait de parler français, mettre de côté la politique du multiculturalisme canadien au Québec. On peut énumérer plein de propositions du Bloc que les conservateurs pourront jamais accoter. Donc, ils doivent aller là où le Bloc peut pas aller sur la modification constitutionnelle.
André?
Oui, ben je suis bien d'accord avec Guillaume, mais c'était pas l'enjeu, on en a discuté pas du tout pendant cette élection. Mais dans cette élection aussi, c'est le problème, c'est que il y a des points cassures avec le Québec sur lesquels là, Erin O'Toole là, a patiné puis a refusé de prendre position clairement et c'était pas de quoi donner la confiance aux Québécois. Alors je vous donne quelques exemples. C'est la question des services de garde, c'est capital au Québec. Et puis, la question de l'avortement, la position de Erin O'Toole est la même que Stephen Harper. Là. Il dit, moi, comme premier ministre, j'ouvrirai pas ce dossier-là, puis je reconnais ce droit. Mais je n'interdirai pas à mes députés
de parler.
De façon privée, donc avec des bills privés, des projets de loi privés, de s'exprimer et éventuellement prendre des initiatives. Stephen Harper faisait la même chose. Et puis, la question du registre des armes à feu, c'est encore l'ambiguïté. Ils disent qu'on va conserver la loi qui était amené par le gouvernement Trudeau, mais on va revoir la définition de ce que sont les fusils d'assaut. Écoutez, là, il y a danger en la demeure, là, parce que Maxime Bernier lui-même, il n'y a pas si longtemps, en 2018-19, disait qu'un AR-15, c'est pas un fusil d'assaut. Et pourtant, dans la course au leadership, Chang, là, l'autre candidat, avait dit, coudonc, M. Bernier, des AR-15, ça ne sert pas pour aller à la chasse.
Oui.
C'était pour tuer du monde.
Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à l'invitation de Radio-VM pour une petite joute électorale. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup André et merci beaucoup Brian. J'espère pouvoir vous retrouver pour un prochain exercice de la sorte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde d'aujourd'hui.
Merci Julien, à la prochaine.
Merci à vous.
Au revoir. Merci.